Donc, on va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde envers nous. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Alors ce matin, le souffle de vie qui nous habite encore, nous savons qu'il t'est dû. Tu as décidé, Seigneur, que tu avais encore des choses à faire dans nos vies et encore des choses à faire à travers nos vies. Alors nous te bénissons non seulement de ton action à notre égard, mais de ton action aussi à travers nous. Quel privilège de savoir que tes mains nous façonnent, nous modèlent, mais aussi, Seigneur, que tes mains nous utilisent à l'avancement de ton royaume. Aujourd'hui, nous voulons disposer notre cœur, nos pensées, pour recevoir de toi et être instruits par ta parole. Merci, Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Tu sais les choses qui nous sont nécessaires pour être les serviteurs, les servantes que tu désires, pour être ces disciples que tu cherches, et pour être ses enfants, ses fils et ses filles, titre auquel, Seigneur, tu nous as conviés et appelés. Alors merci, Seigneur, de prendre soin de notre existence dans tous les domaines, dans toutes les facettes qui constituent nos vies. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta main et de toucher ma sœur ce matin, de toucher mon frère. Tu vois les besoins... Tu vois les besoins des uns et des autres. Tu vois, Seigneur, les défis qui se lèvent devant les uns et les autres. Merci parce que tu les précèdes en toutes choses. Tu les équipes pour toutes choses et tu les utilises pleinement à ta gloire. Pourvois, Seigneur, au-delà de ce que nous pensons avoir besoin. Surprends-nous, étonne-nous et que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, que toute la majesté, la magnificence te reviennent à toi aujourd'hui, durant toute cette journée, jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue parmi nous pour ce temps d'étude sur un passage qui nous est cher, qu'on étudie depuis déjà dimanche, puisqu'on a débuté nos bénédictions matinales dimanche matin avec la prédication, et on a continué donc avec le texte pour cette semaine. Donc le texte qu'on a pour nous cette semaine est dans Jacques au chapitre 1, Jacques chapitre 1, vous pouvez ouvrir, et du verset 22 au 25. Bien sûr, durant lundi, dimanche et lundi, on a étudié du verset 22 à 24, et durant le restant de la semaine, cette fois-ci, on étudie le verset 25. Donc, je relis pour vous Jacques 1, à partir du verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je relis le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Aujourd'hui, nous étudions l'avant-dernière partie de ce texte, l'avant-dernier groupe nominal de ce texte qui dit « mais se mettant à l'œuvre ». Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, mais se mettant à l'œuvre. Alors, deux termes importants, se mettre et puis à l'œuvre. Se mettre, pour ceux qui prennent des notes, je vous donne tout le temps la définition en grec et la syntaxe qui vient avec. ou l'épellation qui vient avec. Donc, se mettre, c'est le terme poietes, poietes. Donc, P-O-I-E-T-E-S. Je répète, poietes, P-O-I-E-T-E-S, qui veut dire produire, obéir, accomplir, et qui vient d'un terme, c'est un terme qui dérive d'un autre terme familier, poieo, P-O-I-E-O, P-O-I-E-O, qui veut dire faire. Donc, poietes, c'est le verbe, ou c'est un terme de la même famille que poieo, qui veut dire faire. Le deuxième terme qu'on va étudier, qu'on a déjà étudié durant ce temps de bénédiction matinale, il y a déjà quelques semaines, le terme œuvre, ergon, E-R-G-O-N. Je répète, ergon, E-R-G-O-N, qui veut parler d'un emploi, d'un travail, d'une occupation, d'une production quelconque et d'une force qui est exercée. Donc, ergon, E-R-G-O-N, on a un terme dans notre langage contemporain, ergonomique, donc un espace qui est adapté au travail, un espace qui facilite le travail. Alors, les deux termes aujourd'hui, se mettre à l'œuvre. Se mettre à l'œuvre, donc produire, obéir, accomplir. Une chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes appelés à servir. Vous m'avez régulièrement entendu parler de cette notion depuis le début de nos bénédictions matinales. J'ai tenu à ce que nous nous préparions à un retour à l'activité, que nous nous préparions à ce qui allait se passer après le confinement et la pause qui nous était imposée. Et la préparation était aussi de comprendre le fait que nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à être des serviteurs qui servent. Nous sommes appelés non pas à être en chômage technique, et je n'ai eu cesse de vous répéter que l'Église n'était pas en pause, que l'œuvre de Dieu n'était pas en pause, mais que nous maintenions une activité, et foncièrement, vous le savez qu'on a même redoublé d'efforts et redoublé d'acharnement durant toute cette période de confinement, parce qu'on voulait s'assurer que l'ensemble des membres et l'ensemble des gens qui se joindraient à nous via Internet puissent être nourris adéquatement. Et voilà pourquoi on a instauré ces bénédictions matinales qui perdurent et qui vont perdurer, et pourquoi on a aussi établi l'étude avec le pasteur André sur le livre de l'Apocalypse et l'étude biblique avec le frère, avec le pasteur Sergio sur servir Dieu en des temps de défi. C'était pour nous amener tous et chacun à servir Dieu encore mieux qu'avant la COVID-19. Donc le premier point ce matin, c'est de comprendre que nous sommes tous appelés à travailler. De surcroît à cela, mais une fois qu'on a compris qu'on est appelé à travailler, encore faut-il décider de débuter le travail. Il y a un point à un moment donné où on doit avoir reçu l'enseignement, on doit avoir reçu la connaissance de ce que nous sommes appelés à travailler, mais il ne se passera rien à moins que nous décidions de débuter le travail. Et ça, c'est personne d'autre que toi qui peut prendre cette décision. On peut t'encourager, on peut t'exhorter. Le Seigneur même pourrait apparaître physiquement devant toi. Tu pourrais connaître ce qu'on appelle une épiphanie ou la théophanie, que Dieu se présente en chair et en os devant toi pour te parler. Mais lui ne commencera pas le travail à ta place. Lui ne te forcera pas à travailler contre ton gré. Le début du travail va être initié par toi. C'est redondant de dire le début initié, mais c'est fait exprès là, ce matin. Personne autre que toi ne peut décider de débuter à travailler. Donc, premièrement, oui, tu dois comprendre que tu dois travailler. Deuxièmement, tu dois prendre la décision que tu vas te mettre à travailler. Et troisièmement, C'est une évidence, vous me direz, mais dans certains cas, les gens s'arrêtent à la décision, mais la décision n'est jamais suivie par une action concrète. Alors non seulement tu dois comprendre, tu dois décider, mais à un moment donné, tu dois débuter. Il y a des gens qui attendent, oui, quand je serai prêt, quand je serai mieux équipé, quand je saurai mieux faire telle ou telle chose, quand je serai plus en règle sur tel ou tel fait dans ma vie, à ce moment-là, je me mettrai à œuvrer. Il y avait ce dicton qu'on disait en France, on devient maçon en travaillant. C'est en faisant des briques que l'on devient maçon. Donc, il est important pour toi et pour moi aujourd'hui aussi de prendre non seulement la décision de travailler, mais de nous mettre à l'œuvre. Et comme je disais, il y a malheureusement des gens qui, oui, qui prennent la décision, mais cette décision n'est jamais suivie par un acte en soi. Dieu peut t'appeler à quelque chose et tu peux te réjouir de l'appel de Dieu lancé sur ta vie. Tu peux même te réjouir d'avoir répondu oui à Dieu, mais si ce oui que tu as verbalisé, ce oui que tu as offert à Dieu n'est pas suivi d'une action concrète, ben en fin de compte, ce oui-là se tourne en fait à un non. Parce que Dieu t'appelle à travailler, tu prends la décision, mais la décision n'est pas suivie par un travail actif ou un travail effectif. Donc le fruit ne viendra jamais. Ce faisant, tu as répondu non à Dieu. Donc il nous est important de savoir que la décision que tu prends de servir Dieu va devoir être suivie par une action. Mais de surcroît à cela, quand on parle de débuter à travailler, ben c'est Paul va dire, moi je ne frappe pas comme frappant dans l'air. Et il parle du boxeur ou du lutteur qui donne des coups, mais que c'est des coups qu'ils doivent porter. Il n'est pas en train de prendre son épée pour essayer de tuer les moustiques à droite et à gauche. Il veut frapper et porter ou produire un effet. Il veut travailler et porter du fruit. Donc nous, quand nous nous mettons à travailler, cette quête de travail, en fait, doit être une quête à produire un fruit pour notre Seigneur. Alors quand toi tu dis oui Seigneur, je vais travailler et que tu fais les premiers pas, ces premiers pas sont en direction d'une production d'un fruit. Tu dois avoir ce désir qu'à un moment donné tu puisses prendre ta récolte et l'offrir à Dieu, qu'à un moment donné ce fruit de ton travail puisse servir à Dieu. Donc, quand nous travaillons, c'est pas tout simplement un désir d'être en activité. Il y a des gens qui s'activent, mais foncièrement, il y a pas de fruit à leur travail. Il n'y a pas de sens au travail qu'ils effectuent. Vous connaissez aussi l'expression de poule sans tête qui court à droite et à gauche, mais on comprend pas ce qu'elles font et où elles vont et quel est l'objectif qu'elle vise. Et notre travail pour le Seigneur doit plutôt être un travail stratégique. Le temps est court. La Bible nous dit de racheter le temps. Et une manière de racheter le temps, c'est d'avoir des objectifs et de produire un fruit. Et le fruit de notre travail doit toujours non pas être selon nos caractéristiques à nous, mais selon l'objectif même du propriétaire du champ, du maître de la moisson, qui est notre Seigneur. Alors non seulement on doit comprendre qu'on doit travailler, mais on doit comprendre qu'on doit travailler dans le but de produire un fruit qui est agréable à Dieu. De surcroît à cela, ben après avoir compris, décidé de travailler, après avoir débuté le travail, après avoir compris qu'on recherchait un fruit à notre travail, encore faut-il perdurer dans le travail. Malheureusement, que ce soit dans l'Église ou que ce soit ailleurs dans la société, on a des gens qui sont motivés par à-coups, des gens qui embarquent dans l'œuvre, que ce soit l'œuvre de Dieu ou les œuvres sociales, qui embarquent dans un travail juste pour un certain temps. Ils peuvent même parfois te dire, je suis là ad vitam aeternam, je suis là pour toujours, mais dans le fin fond, lorsque tu regardes comment ils opèrent, au bout de quelques semaines, déjà l'intérêt est diminué, au bout de quelques mois, l'entrain n'y est plus, et au bout de quelques années, et parfois de façon beaucoup plus courte que cela, tu cherches à droite et à gauche où était ton coéquipier, et ton coéquipier n'est plus là, il est parti à autre chose qui l'emballait un peu plus, qui l'attirait un peu plus, qui l'intéressait un peu plus, et l'œuvre à laquelle vous étiez tous deux attachés, maintenant elle manque un ouvrier qui est parti à autre chose. Donc non seulement il est important de commencer le travail, mais de perdurer le travail. Perdurer jusqu'à quand? Pour ceux qui se demandent ce que veut dire le terme perdurer, c'est simplement durer dans le temps. Avoir un travail ou une œuvre qui est constante, qui fait preuve d'un travail constant, qui ne cesse pas et qui perdure jusqu'à quand? Mais qui perdure jusqu'à ce que le temps soit venu, jusqu'à ce que le fruit soit atteint ou jusqu'à ce que le maître, de façon claire et précise, amène cet ouvrier dans une autre partie du champ vers une autre action. Et il faut bien comprendre, ce ne sont pas tes intérêts personnels, mais il faut que ce soit la parole de Dieu, la voix de Dieu qui te mène ailleurs. Sinon, tu es simplement en train de courir d'une activité à une autre, d'un intérêt à un autre, d'un plaisir à un autre. Et il y a du plaisir à travailler pour Dieu. Mais quand ce plaisir est la seule chose que tu recherches, il se pourrait qu'à un moment donné, quand le temps devient plus dur au travail, que parce que tu manques de plaisir, tu te dis, ah, mon temps est fini. Il y a des saisons dans le travail. Il y a des époques, il y a des phases dans le travail. Et il y a des phases qui sont intéressantes et il y a des phases qui sont un peu moins intéressantes. Quand on se met à cuisiner, j'aime la cuisine, donc vous savez que c'est souvent un exemple vers lequel je retourne, mais quand je cuisine, j'aime voir le produit qui se développe, mais vous ne pouvez pas savoir comment ça m'embête de couper des oignons parce que ça brûle les yeux, parce que les yeux vont couler, mais je ne peux pas faire autrement que de produire un plat salé avec des oignons. Ça me prend des oignons et ça me prend de l'ail dans tous les plats salés que je fais. Donc, je vais devoir couper l'oignon, même si cette partie de la cuisine m'est un peu plus embêtante. De surcroît à cela, après avoir produit mon plat, il y a de la vaisselle. Et la vaisselle, c'est une des activités les plus rébarbatives que je connaisse. Même si j'aime faire la cuisine, je déteste laver les plats subséquemment à mon temps de préparation de cuisine ou après leur repas. Mais ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Ça fait partie des devoirs inhérents à toute période de travail qu'on appelle la cuisine. Donc je salis des plats, je prépare un mets, mais après avoir préparé, encore faut-il laver les plats pour que au prochain repas, je puisse recommencer à utiliser ces instruments. Donc pour nous, il nous faut perdurer dans le travail en dépit de l'intérêt qui parfois peut baisser, parce que le travail représente à l'occasion, ou certaines facettes du travail représentent à l'occasion des choses qui sont un peu plus pénibles. Certaines personnes veulent tout simplement travailler quand ça leur plaît. Le vigneron, il y a certainement des parties du travail qui l'intéressent plus que d'autres, mais il n'arrête pas son travail jusqu'à ce que le vin soit en train de mûrir dans les barriques, jusqu'à qu'ils soient en train de vieillir dans les barriques. Et même une fois que le vin est en bouteille, il y a encore un travail qui existe pour le vigneron. Celui qui fait du champagne va venir tourner d'un quart de tour la bouteille à temps fixe, tout simplement parce que c'est la manière qu'on fait pour que le vin ou que le champagne vieillisse adéquatement. Donc, on perdure dans notre travail, on continue dans notre travail jusqu'à ce que le travail soit terminé ou jusqu'à ce que le propriétaire de l'œuvre vienne nous dire maintenant de façon très claire, il est temps que tu passes à autre chose. À moins que le Seigneur ne parle clairement, je suis engagé à l'œuvre jusqu'à la fin de la dite œuvre. Alors, pour le terme poiétès, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Il nous faut comprendre que nous devons travailler. Il nous faut décider de débuter à travailler. Le travail ne se fera pas à moins d'une décision de ta part. Puis, une fois qu'on a décidé, encore faut-il se mettre en action. Par la suite, il faut chercher à atteindre un but de notre travail. On n'est pas en train de s'éparpiller à droite et à gauche, mais on veut vraiment atteindre un objectif et produire du fruit. Et finalement, il nous faut perdurer dans l'œuvre jusqu'à ce que le travail soit accompli ou jusqu'à ce que le maître de la moisson nous déplace dans une autre fonction et nous déplace vers un autre travail, une autre fonction. Maintenant, se mettre à l'œuvre. Œuvre, le terme ergon. Ergon qui veut dire emploi, qui veut dire travail, qui veut dire occupation, qui veut dire la production d'une chose, je produis une chose, la pensée de tout à l'heure, porter un fruit d'une chose. Et ergon parle aussi de la force qui est exercée pour accomplir une tâche. Alors premièrement, comprenons que le travail va requérir des efforts. Le travail va demander de toi et de moi des efforts. Et ça, c'est un concept que on comprend dans la vie de tous les jours, mais pour des raisons que je n'arrive pas à saisir. Il y a des gens qui pensent que le travail pour Dieu ne nécessitera pas d'efforts. C'est comme si Dieu, puisque c'est lui qui fait toutes choses à travers toi, tu ne sueras pas, tu ne trembleras pas, tu ne seras pas fatigué, tu n'auras pas à fournir des efforts. Le travail, à la base, c'est une production d'efforts. Le travail ne se fait pas sans efforts. Celui qui va travailler à la vigne fournit des efforts dans la vigne. Celui qui va produire du blé va bêcher son champ, va remuer la terre, va répandre la semence, va arroser le champ, va déraciner les mauvaises herbes au moment opportun, va plus tard ramasser la récolte, ramasser le blé, va par la suite frapper le blé pour en détacher le grain et en faire de la farine. Chacune de ces étapes requiert des efforts, requiert un travail physique, parfois un travail émotif, émotionnel, psychologique, spirituel. Chose certaine, c'est que le travail va requérir des efforts. Tu vas avoir à produire, tu vas avoir à fournir des efforts pour le travail de Dieu, tout comme tu en fournis pour quelque autre travail que tu exécutes ici même. Même quand tu fais un loisir, ce loisir va te demander des efforts. Que tu ailles, je sais pas moi, faire du jogging, disons que tu aimes faire du jogging, mais ton jogging, même si tu y prends plaisir, tu vas fournir des efforts. Hier, je m'entraînais, vous avez vu sur les photos sur Internet ou sur Facebook, comme quoi j'ai installé un petit gym dans le sous-sol. Hier, je m'entraînais là, Daphné s'entraînait à mes côtés. Mais cet entraînement dans lequel on prenait plaisir, et personnellement, j'en prenais grand plaisir, mais cet entraînement-là, je suais. Donc, ça veut dire que je fournissais un effort. Alors, même si tu aimes travailler pour Dieu, et même si tu prends du plaisir à travailler pour Dieu, tu dois comprendre que oui, tu vas fournir un effort, que c'est normal, que c'est inhérent à tout travail, donc au travail de Dieu aussi. Le travail requiert non seulement des efforts, le travail va requérir aussi du temps. Il y a du temps que tu sacrifies au travail. Il y a du temps que tu sacrifies à ton travail séculier, à ton travail de tous les jours. Il y a du temps que tu consacres à travailler pour ton couple, à travailler pour ta famille. Il y a du temps que tu consacres à maintenir de bonnes relations avec tes amis, avec tes voisins, avec tes concitoyens. Ben, le travail pour Dieu, et dans le cadre de cette semaine, puisqu'on parle de notre attitude par rapport à la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu va recueillir non seulement des efforts, mais va recueillir aussi du temps. Étudier la parole de Dieu, ça veut dire que je sacrifie du temps à ce propos-là, ou je consacre du temps à ce propos-là. Un temps que j'aurais peut-être utilisé pour aller jouer au golf, un temps que j'aurais peut-être utilisé pour regarder la télé, un temps que j'aurais peut-être utilisé pour essayer une nouvelle recette, un temps que j'aurais peut-être utilisé pour faire la sieste, un temps que j'aurais peut-être utilisé pour aller à la plage, ce temps-là, je le prends et je le consacre à une autre tâche, et cette tâche est l'étude de la parole de Dieu. Donc l'apprentissage de Dieu et le travail pour Dieu va nécessiter inévitablement du temps. C'est pas un don qui te tombe dessus de connaître Dieu. Dieu se révèle à qui le cherche. Et chercher Dieu requiert des efforts et requiert du temps. Et la connaissance de Dieu est une connaissance qui est progressive. Mais si j'arrête d'y consacrer du temps, ben cette connaissance ou ce processus de prise de connaissance s'arrête aussi. Donc le travail, l'étude de la parole va requérir des efforts, va requérir du temps, va requérir aussi de la consécration, de l'implication. Si je veux vraiment étudier correctement, je vais me mettre dans un contexte particulier dans lequel je peux apprendre de façon optimale. Chacun d'entre nous, on a nos façons d'étudier, nos façons d'approfondir les connaissances. Certains vont avoir besoin d'une petite musique de fond, d'autres vont avoir besoin d'un calme total, d'un silence total à travers eux. Certains vont avoir besoin d'être dans un éclairage qui est très fort, d'autres qui vont avoir besoin plutôt d'un éclairage un peu plus tamisé, une atmosphère qui fait un peu plus relax, cosy, alors que d'autres vont avoir besoin d'être même dans un environnement de classe. Ils vont étudier mieux lorsqu'ils sont sur place avec un professeur et avec des collègues étudiants, alors que d'autres vont étudier davantage lorsqu'ils sont tout seuls dans un petit cubicule à plonger les regards dans leur manuel, et dans le cas que nous parlons en cette semaine, petit endroit privé pour étudier la parole de Dieu. Donc il va y avoir une consécration de temps, mais une consécration aussi d'efforts. Il va y avoir une implication sur le long temps. Et il va y avoir aussi un grand besoin, et on termine là-dessus ce matin, de ténacité. L'apprentissage est quelque chose sur le long terme. Certains vous diront que nous étudions et nous apprenons jusqu'au dernier jour de ma vie, de notre vie, et j'en suis tout à fait convaincu. Je partage cette opinion-là. Hier, je rencontrais un jeune homme et je lui disais, il est important de rester toujours dans cette attitude d'étude, parce que lorsqu'on abandonne l'étude, y revenir, redémarrer la machine, ça peut être assez difficile. Alors voilà pourquoi très souvent, j'exhorte même tous ceux qui obtiennent un diplôme de continuer ce qu'on appelle l'étude active ou la vie active de l'étudiant, de ne pas arrêter l'école parce qu'ils ont obtenu leur diplôme, mais de s'assurer de continuer à prendre un cours ici à droite et à gauche pour garder notre esprit vif dans l'étude. Donc la parole de Dieu, ça va être la même chose. Si à un moment donné j'arrête pendant X nombre de jours, X nombre de semaines, X nombre de mois, et dans le drame X nombre d'années, remettre la machine en marche peut être difficile. Alors voilà pourquoi il est bon d'avoir une bonne hygiène spirituelle dans l'étude, dans l'intimité avec Dieu, dans l'approfondissement de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que Nous sommes appelés à servir Dieu et nous sommes appelés à étudier. Et cette étude, ce travail d'étude, ce travail d'approfondissement de notre connaissance de Dieu, ne sera pas fait sans une décision de ta part. Dieu ne se forcera pas sur toi. Tu devras décider de commencer à étudier, de commencer à travailler. Et tu devras décider de mettre la machine en marche. Dire, OK, ce matin, je m'assois et je lis ma Bible. Et ce matin, je m'assois et j'essaie de comprendre ce verset-là. Donc, ça va demander de toi d'initier la chose. Ça va demander de toi de chercher un objectif. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Et de fixer ton regard pour le saisir et de perdurer dans ton travail jusqu'à ce que tu aies obtenu le fruit escompté. Donc, ça va te demander des efforts. Ça va te demander du temps que tu aurais mis à autre chose, que tu vas consacrer plutôt à la parole de Dieu. Ça va te demander une consécration. Dire « Non, non, je m'implique là-dedans et c'est pas pour lâcher dans deux semaines. » Et ça va te demander de la résilience. Par moment, tu étudies un passage, puis c'est comme « Waouh, je saisis pas », puis tu as envie de passer à autre chose, ou tu as envie d'aller vers d'autres sujets qui sont plus simples, qui t'attirent naturellement, mais tu sais que tu dois étudier, et que tu sais que tu dois comprendre ce point-là, et tu t'acharnes là-dessus, et c'est important. Donc, l'étude de la parole de Dieu va demander de la ténacité, va demander une hygiène de vie, ou à l'instar de ta vie de tous les jours où tu manges pour aller chercher tous les nutriments que tu as besoin pour ton corps physique, ton corps spirituel aura aussi besoin d'apports nutritifs spirituels réguliers tout autant, tout au long de ta journée et tout au long de ta vie. Alors voilà ce qu'on avait pour nous ce matin. Poietes, se mettre à l'œuvre. Décider de débuter, ergon, le travail qui demande du temps, des efforts et de la ténacité. Alors voilà ce qu'on avait pour nous ce matin. On va prier et après ça, on va saluer les gens qui se sont joints à nous en cours de route. Et par la suite, on vous donnera aussi quelques informations ou quelques annonces pour les prochains jours. Alors merci Seigneur de l'occasion que tu nous donnes d'approfondir ta parole. Nous comprenons que cet apprentissage requiert une décision de notre part, un engagement de notre part et requiert de la pérennité dans ce travail d'étude de ta parole. Mais de surcroît à cela, Seigneur, nous comprenons aussi qu'il nous faudra aménager les choses autour de nous pour y consacrer tout le temps nécessaire et y consacrer les efforts qui se doivent. De durer, Seigneur, dans ses efforts. Alors, je prie, tant pour moi que pour ma sœur, que pour mon frère, que nous puissions avoir effectivement, Seigneur, cet engagement face à ta parole, cet engagement, Seigneur, d'étudier, d'apprendre à te connaître. Et si, Seigneur, ça nous prenait une raison plus qu'une autre pour débuter, initier ce travail d'étude, je citerai, Seigneur, ta personne. Est-ce que c'est pas une merveilleuse chose d'être en communion avec toi et d'être encore plus intime quotidiennement avec toi? N'est-ce pas une merveilleuse chose, Seigneur, de te connaître davantage quotidiennement? Et merci, Seigneur, de ce que ta parole nous dit que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Alors Seigneur, nous voulons te chercher et nous voulons te trouver. Et nous voulons, Seigneur, approfondir notre intimité avec toi et notre connaissance de tes plans, de tes projets, de ta pensée, afin, Seigneur, de nous assurer que notre vie t'est agréable et profitable. Alors nous prions, Seigneur, pour chacun d'entre nous et nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et nos sœurs, bénis-les, révèle-toi, Seigneur, pendant leur temps de lecture, d'étude, de méditation, et surprends-les par l'action de ta droite en leur faveur. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je défile, je remonte pour voir qui sont les dernières personnes qu'on a saluées. Voilà. Donc, on a la sœur Jocelyne et le frère Jacques qu'on avait salué un peu plus tôt. On a Soraya, bonjour, bon matin à toi. On a Gaëtan et Ginette de Shawinigan, des gens qui nous sont chers et qui nous rappellent de bons souvenirs. Bonjour Gaëtan, bonjour Ginette. On a Melida Gamboa, Dieu vous bénisse. Ramon, Dieu te bénisse. On a Raymond, bonjour Raymond. On a Diana, que Dieu vous bénisse. On a Jacques-Élie, sois béni Jacques, que Dieu te bénisse fortement. On a Laure Pure, qui est en fait la sœur Samek, bonjour ma sœur. On a Chris Claes, je ne sais pas comment on prononce, mais bienvenue parmi nous, content de vous avoir avec nous. Et puis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on vous rappelle les rendez-vous de cette semaine. Donc, demain matin, dernière bénédiction matinale de cette semaine. Puis, demain soir, notre temps de prière et d'intercession à partir de 19h, toujours sur les canaux Facebook. On espère que vous serez là. C'est l'occasion de transmettre vos prières et vos requêtes et vos actions de grâce. Donc, on prendra tout cela demain soir pour les présenter devant le Seigneur dans la prière et dans l'intercession. Rappel très important, si vous avez envie d'assister à l'église, à l'assemblée plutôt dimanche directement sur place, il vous reste 24 heures pour vous inscrire. Il y a de nouveaux visages qui vont être là dimanche et on s'en réjouit beaucoup, même des visages qui nous viennent de nos églises filles, de nos églises périphériques. Donc, si vous voulez être là ce dimanche, vous devez avoir 30 ans et plus, ne présenter aucun signe, bien sûr, de grippe. C'est les règles, c'est la règle normale dans ce sens-là. À partir de la semaine prochaine, ceux qui pourront assister auront de 12 ans en montant, donc 12 ans jusqu'à 77 ans et plus. Mais d'ici là, c'est simplement ceux de 30 ans et plus. Donc, vous appelez au numéro de l'église 514-273-8295. Je répète, 514-273-8295. Sinon, vous cherchez sur la page web de l'église et vous trouverez le numéro de téléphone. Ou vous écrivez au secrétariat de l'église. Donc, le courriel, c'est secrétariat EAJC. En un seul mot, pas d'accent, bien sûr. Secrétariat EAJC à commercial@gmail.com. Que ce soit par téléphone ou que ce soit par courriel, vous nous indiquez votre nom. Vous nous indiquez un numéro de téléphone ou un courriel dans lequel on peut vous contacter très rapidement parce qu'il nous faut confirmer votre présence. Et vous nous indiquez le nom de toutes les personnes qui vont vous accompagner. Ces personnes, bien sûr, doivent aussi cadrer avec les normes en mesure, donc 30 ans et plus, et ne présentant pas de signes grippaux. Si c'est le cas, donc vous écrivez, vous nous appelez, et on se fera un plaisir de vous appeler dans les prochaines heures ou de vous contacter aujourd'hui ou demain pour confirmer votre présence avec nous. Donc sur ce, je pense que ça s'arrête là pour ce matin. On était content de vous avoir. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Mettons-nous à l'œuvre tel qu'on l'a étudié ce matin. Faisons notre travail, fournissons les efforts, faisons preuve de ténacité et de résilience. Et cherchons la face de Dieu, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, que Dieu vous bénisse et on se retrouve donc demain matin pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine. À bientôt tout le monde, au revoir.